Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Troisième partie, livre 32e. Révolution de juillet. Journée du 26. 2. Journée du 27 juillet. 3. Journée militaire du 28 juillet. 4. Journée civile du 28 juillet. 5. Journée militaire du 29 juillet. 6. Journée civile du 29 juillet. Monsieur Baude, Monsieur de Choiseul, Monsieur de Sémonville, Monsieur de Vitrolles, Monsieur Lafitte et Monsieur Thiers. 7. J'écris au roi à Saint-Cloud. Sa réponse verbale. Corps aristocratique. Pillage de la maison des missionnaires, rue d'Enfer. 8. Chambre des députés. Monsieur de Mortemart. 9. Course dans Paris. Le général Dubourg. Cérémonie funèbre sous les colonnades du Louvre. Les jeunes gens me rapportent à la chambre des pères. 10. Réunion des pères. 11. Les républicains. Les orléanistes. Monsieur Thiers est envoyé à Neuilly. Autre convocation des pères chez le grand référendaire. La lettre m'arrive trop tard. 12. Saint-Cloud. Scène. Monsieur le Dauphin et le maréchal de Raguse. 13. Neuilly. Monsieur le duc d'Orléans. Le Rhincy. Le prince vient à Paris. 14. Une députation de la chambre élective offre à monsieur le duc d'Orléans la lieutenance générale du royaume. Il accepte. Effort des républicains. 15. Monsieur le duc d'Orléans va à l'hôtel de ville. 16. Les républicains au palais royal. Chapitre 1. Journée du 26. Les ordonnances, datées du 25 juillet, furent insérées dans le Moniteur du 26. Le secret en avait été si profondément gardé que ni le maréchal duc de Raguse, major général de la garde de service, ni M. Mangin, préfet de police, ne furent mis dans la confidence. Le préfet de la Seine ne connut les ordonnances que par le Moniteur, de même que le sous-secrétaire d'État de la guerre. Et néanmoins, c'étaient ces divers chefs qui disposaient des différentes forces armées. Le prince de Polignac, chargé par intérim du portefeuille de M. de Bourmont, était si loin de s'occuper de cette minime affaire des ordonnances qu'il passa la journée du 26 à présider une adjudication au ministère de la guerre. Le roi partit pour la chasse le 26, avant que le Moniteur fût arrivé à Saint-Cloud, et il ne revint de Rambouillet qu'à minuit. Enfin, le duc de Raguse reçut le billet de M. de Polignac. « Votre Excellence a connaissance des mesures extraordinaires que le roi, dans sa sagesse et dans son sentiment d'amour pour son peuple, a jugé nécessaire de prendre pour le maintien des droits de sa couronne et de l'ordre public. Dans ces importantes circonstances, Sa Majesté compte sur votre zèle pour assurer l'ordre et la tranquillité dans toute l'étendue de votre commandement. cette audace des hommes les plus faibles qui furent jamais, contre cette force qui allait broyer un empire, ne s'explique que par une sorte d'hallucination, résultat des conseils d'une misérable coterie que l'on ne trouva plus au moment du danger. Les rédacteurs des journaux, après avoir consulté messieurs Dupin, Odilon Baron, Barthes et Mériloux, se résolurent de publier leurs feuilles sans autorisation, afin de se faire saisir et de plaider l'illégalité des ordonnances. Ils se réunirent au bureau du National. M. Thiers rédigea une protestation qui fut signée de 44 rédacteurs et qui parut le 27 au matin dans le National et le Temps. À la chute du jour, quelques députés se réunirent chez M. de Laborde. On convint de se retrouver le lendemain chez M. Casimir Perrier. Là parut, pour la première fois, un des trois pouvoirs qui allaient occuper la scène. La monarchie était à la Chambre des députés, l'usurpation au Palais royal, la République à l'Hôtel de Ville. Dans la soirée, il se forma des rassemblements au Palais royal. On jeta des pierres à la voiture de M. de Polignac. Le duc de Raguse, ayant vu le roi à Saint-Cloud, à son retour de Rambouillet, le roi lui demanda des nouvelles de Paris. « La rente est tombée. »« De combien ? » dit le dauphin. « De 3 francs, » répondit le maréchal. « Elle remontera, » répartit le dauphin. Et chacun s'en alla. Chapitre 2. Journée du 27 juillet. La journée du 27 commença mal. Le roi investit du commandement de Paris le duc de Raguse. C'était s'appuyer sur la mauvaise fortune. Le maréchal se vint installer à 1 heure à l'état-major de la garde, place du Carrousel. M. Mangin envoya saisir les presses du National. M. Carrel résista. Messieurs Mignet et Thiers, croyant la partie perdue, disparurent pendant 2 jours. M. Thiers alla se cacher dans la vallée de Montmorency chez une madame de Courchamp, parente des 2 messieurs Becquet, dont l'un a travaillé au National et l'autre au Journal des débats. Au Temps, la chose prit un caractère plus sérieux. Le véritable héros des journalistes est incontestablement M. Coste. En 1823, M. Coste dirigeait les Tablettes historiques. Accusé par ses collaborateurs d'avoir vendu ce journal, il se battit et reçut un coup d'épée. M. Coste me fut présenté au ministère des Affaires étrangères. En causant avec lui de la liberté de la presse, je lui dis « Monsieur, vous savez combien j'aime et respecte cette liberté, mais comment voulez-vous que je la défende auprès de Louis XVIII quand vous attaquez tous les jours la royauté et la religion ? Je vous supplie dans votre intérêt et pour me laisser ma force entière de ne plus saper des remparts aux 3/4 démolis. Et qu'en vérité, un homme de courage devrait rougir d'attaquer. Faisons un marché. Vous ne vous en prenez plus à quelques vieillards faibles que le trône et le sanctuaire protègent à peine. Je vous livre en échange ma personne. Attaquez-moi soir et matin. Dites de moi tout ce que vous voudrez, jamais je ne me plaindrai. Je vous saurai gré de votre attaque légitime et constitutionnelle contre le ministre, en mettant à l'écart le roi. » M. Coste m'a conservé de cette entrevue un souvenir d'estime. Une parade constitutionnelle eut lieu au bureau du Temps entre M. Baude et un commissaire de police. Le procureur du roi de Paris décerna 44 mandats d'amener contre les signataires de la protestation des journalistes. Vers 2 heures, la fraction monarchique de la Révolution se réunit chez M. Perrier. Comme on en était convenu la veille. On ne conclut rien. Les députés s'ajournèrent au lendemain, 28, chez M. Audry de Puyraveau. M. Casimir Perrier, homme d'ordre et de richesse, ne voulait pas tomber dans les mains populaires. Il ne cessait de nourrir encore l'espoir d'un arrangement avec la royauté légitime. Il dit vivement à M. de Chonnenne : Vous nous perdez en sortant de la légalité. Vous nous faites quitter une position superbe. » Cet esprit de légalité était partout. Il se montra dans 2 réunions opposées, l'une chez M. Cadet-Gassicourt, l'autre chez le général Courgaud. M. Perrier appartenait à cette classe bourgeoise qui s'était faite héritière du peuple et du soldat. Il avait du courage, de la fixité dans les idées. Il se jeta bravement en travers du torrent révolutionnaire pour le barrer. Mais sa santé préoccupait trop sa vie et il soignait trop sa fortune. « Que voulez-vous faire d'un homme ?» me disait M. Decazes, qui regarde toujours sa langue dans une glace. La foule augmentant et commençant à paraître en armes, l'officier de la gendarmerie vint avertir le maréchal de Raguse qu'il n'avait pas assez de monde et qu'il craignait d'être forcé. Alors le maréchal fit ses dispositions militaires. Le 27, il était déjà 4h30 du soir lorsqu'on reçut dans les casernes l'ordre de prendre les armes. La gendarmerie de Paris, appuyée de quelques détachements de la garde, essaya de rétablir la circulation dans les rues Richelieu et Saint-Honoré. Un de ces détachements fut assailli, dans la rue du Duc de Bordeaux, d'une grêle de pierres. Le chef de ce détachement évitait de tirer lorsqu'un coup parti de l'hôtel royal rue des Pyramides décida la question. Il se trouva qu'un monsieur Fox, habitant de cet hôtel, s'était armé de son fusil de chasse et avait fait feu sur la garde à travers sa fenêtre. Les soldats répondirent par une décharge sur la maison et M. Fox tomba mort avec deux domestiques. Ainsi, ces Anglais, qui vivent à l'abri dans leur île, vont porter les révolutions chez les autres. Vous les trouvez mêlés dans les quatre parties du monde à des querelles qui ne les regardent pas. Pour vendre une pièce de calicot, peu leur importe de plonger une nation dans toutes les calamités. Quel droit ce M. Fox avait-il de tirer sur des soldats français? Était-ce la constitution de la Grande-Bretagne que Charles X avait violée? Si quelque chose pouvait flétrir les combats de juillet, ce serait d'avoir été engagé par la balle d'un Anglais. Ces premiers combats, qui, dans la journée du 27, n'avaient guère commencé que vers les 5 heures du soir, cessèrent avec le jour. Les armuriers cédèrent leurs armes à la foule, les réverbères furent brisés ou restèrent sans être allumés. Le drapeau tricolore se hissa dans les ténèbres au haut des tours de Notre-Dame. L'envahissement des corps de garde, la prise de l'arsenal et des poudrières, le désarmement des fusiliers sédentaires, tout cela s'opéra sans opposition au lever du jour le 28 et tout était fini à 8 heures. Le parti démocratique et prolétaire de la Révolution en blouse ou demi-nu était sous les armes. Il ne ménageait pas sa misère et ses lambeaux. Le peuple, représenté par des électeurs qu'il s'était choisis dans divers attroupements, était parvenu à faire convoquer une assemblée chez M. Cadet-Gassicourt. Le parti de l'usurpation ne se montrait pas encore. Son chef, caché hors de Paris, ne savait s'il irait à Saint-Cloud ou au Palais-Royal. Le parti bourgeois ou de la monarchie, les députés, délibéraient et répugnaient à se laisser entraîner au mouvement. M. de Polignac se rendit à Saint-Cloud et fit signer au roi, le 28, à 5 heures du matin, l'ordonnance qui mettait Paris en état de siège. Chapitre 3. Journée militaire du 28 juillet. Les groupes s'étaient reformés le 28 plus nombreux. Au cri de « Vive la charte !» qui se faisait encore entendre, se mêlait déjà le cri de « Vive la liberté ! À bas les Bourbons !» On criait aussi « Vive l'empereur ! Vive le prince noir !» mystérieux prince des ténèbres qui apparaît à l'imagination populaire dans toutes les révolutions. Les souvenirs et les passions étaient descendus. On abattait et l'on brûlait les armes de France. On les attachait à la corde des lanternes cassées. On arrachait les plaques fleurdelysées des conducteurs de diligence et des facteurs de la poste. Les notaires retiraient leurs panonceaux, les huissiers leurs rouelles, les voituriers leurs estampilles, les fournisseurs de la cour leurs écussons. Ceux qui jadis avaient recouvert les aigles napoléoniennes peintes à l'huile, de lys bourboniens détrempés à la colle, n'eurent besoin que d'une éponge pour nettoyer leur loyauté. Avec un peu d'eau, on efface aujourd'hui la reconnaissance et les empires. Le maréchal de Raguse écrivit au roi qu'il était urgent de prendre des moyens de pacification et que demain, 29, il serait trop tard. Un envoyé du préfet de police était venu demander au maréchal s'il était vrai que Paris fût déclaré en état de siège. Le maréchal, qui n'en savait rien, parut étonné. Il courut chez le président du conseil, il y trouva les ministres assemblés, et M. de Polignac lui remit l'ordonnance. Parce que l'homme qui avait foulé le monde aux pieds avait mis des villes et des provinces en état de siège, Charles X avait cru pouvoir l'imiter. Les ministres déclarèrent au maréchal qu'ils allaient venir s'établir à l'état-major de la garde. Aucun ordre n'étant arrivé de Saint-Cloud, à 9 heures du matin, le 28, lorsqu'il n'était plus temps de tout garder, mais de tout reprendre, le maréchal fit sortir des casernes les troupes qui s'étaient déjà en partie montrées la veille. On n'avait pris aucune précaution pour faire arriver des vivres au Carrousel, quartier général. La manutention, qu'on avait oublié de faire suffisamment garder, fut enlevée. Monsieur le duc de Raguse, homme d'esprit et de mérite, brave soldat, savant mais malheureux général, prouva pour la millième fois qu'un génie militaire est insuffisant aux troubles civils. Le premier officier de police eut mieux su ce qu'il y avait à faire que le maréchal. Peut-être aussi son intelligence fut-elle paralysée par ses souvenirs. Il resta comme étouffé sous le poids de la fatalité de son nom. Le maréchal, qui n'avait qu'une poignée d'hommes, conçut un plan pour l'exécution duquel il lui aurait fallu 30 000 soldats. Des colonnes étaient désignées pour de grandes distances, tandis qu'une autre s'emparerait de l'hôtel de ville. Les troupes, après avoir achevé leur mouvement pour faire régner l'ordre de toutes parts, devaient converger à la maison commune. Le Carrousel demeurait le quartier général. Les ordres en sortaient et les renseignements y aboutissaient. Un bataillon de Suisse, pivotant sur le marché des Innocents, était chargé d'entretenir la communication entre les forces du centre et celles qui circulaient à la circonférence. Les soldats de la caserne Popincourt s'apprêtaient par différents rameaux à descendre sur les points où ils pouvaient être appelés. Le général Latour-Maubourg était logé aux Invalides. Quand il vit l'affaire mal engagée, il proposa de recevoir les régiments dans l'édifice de Louis XIV. Il assurait qu'il les pourrait nourrir et défiait les Parisiens de le forcer. Il n'avait pas impunément laissé ses membres sur les champs de bataille de l'Empire, et les redoutes de Borodino savaient qu'il tenait parole. Mais qu'importaient l'expérience et le courage d'un vétéran mutilé? On n'écouta point ses conseils. Sous le commandement du comte de Saint-Chamond, la première colonne de la garde partit de la Madeleine pour suivre les boulevards jusqu'à la Bastille. Dès les premiers pas, un peloton que commandait M. Salat fut attaqué. L'officier royaliste repoussa vivement l'attaque. À mesure qu'on avançait, les postes de communication laissés sur la route, trop faibles et trop éloignés les uns des autres, étaient coupés par le peuple et séparés les uns des autres par des abattis d'arbres et des barricades. Il y eut une affaire sanglante aux portes Saint-Denis et Saint-Martin. M. de Saint-Chamond, passant sur le théâtre des exploits futurs de Fieschi, rencontra à la place de la Bastille des groupes nombreux de femmes et d'hommes. Il les invita à se disperser en leur distribuant quelque argent, mais on ne cessait de tirer des maisons environnantes. Il fut obligé de renoncer à rejoindre l'hôtel de ville par la rue Saint-Antoine, et après avoir traversé le pont d'Austerlitz, il regagna le Carrousel le long des boulevards du Sud. Turenne, devant la Bastille, non encore démolie, avait été plus heureux pour la mère de Louis XIV enfant. La colonne chargée d'occuper l'hôtel de ville suivit les quais des Tuileries, du Louvre et de l'École, passa la moitié du Pont-Neuf, prit le quai de l'Horloge, le marché aux Fleurs, et se porta à la place de Grève par le pont Notre-Dame. Deux pelotons de la garde firent une diversion en filant jusqu'au nouveau pont suspendu. un bataillon du 15e léger appuyait la garde et devait laisser deux pelotons sur le marché aux fleurs. On se battit au passage de la Seine sur le pont Notre-Dame. Le peuple, tambour en tête, aborda bravement la garde. L'officier qui commandait l'artillerie royale fit observer à la masse populaire qu'elle s'exposait inutilement et que, n'ayant pas de canon, elle serait foudroyée sans aucune chance de succès. La plèbe s'obstina. L'artillerie fit feu. Les soldats inondèrent les quais et la place de Grève où débouchèrent par le pont d'Arcole deux autres pelotons de la garde. Ils avaient été obligés de forcer des rassemblements d'étudiants du faubourg Saint-Jacques. L'hôtel de ville fut occupé. Une barricade s'élevait à l'entrée de la rue du Mouton. Une brigade de Suisses emporta cette barricade. Le peuple, se ruant des rues adjacentes, reprit son retranchement avec de grands cris. La barricade resta finalement à la garde. Dans tous ces quartiers, pauvres et populaires, on combattit instantanément sans arrière-pensée. L'étourderie française, moqueuse, insouciante, intrépide, était montée au cerveau de tous. La gloire a pour notre nation la légèreté du vin de champagne. Les femmes, aux croisées, encourageaient les hommes dans la rue. Des billets promettaient le bâton de maréchal au premier colonel qui passerait au peuple. Des groupes marchaient au son d'un violon. C'étaient des scènes tragiques et bouffonnes, des spectacles de tréteaux et de triomphes. On entendait des éclats de rire et des jurements au milieu des coups de fusil, du sourd mugissement de la foule, à travers des masses de fumée. Pieds nus, bonnets de police en tête, des charretiers improvisés conduisaient avec un laissez-passer de chefs inconnus des convois de blessés parmi les combattants qui se séparaient. Dans les quartiers riches régnait un autre esprit. Les gardes nationaux, ayant repris les uniformes dont on les avait dépouillés, se rassemblaient en grand nombre à la mairie du premier arrondissement pour maintenir l'ordre. Dans ces combats, la garde souffrait plus que le peuple, parce qu'elle était exposée au feu des ennemis invisibles enfermés dans les maisons. D'autres nommeront les vaillants des salons qui, reconnaissant des officiers de la garde, s'amusaient à les abattre, en sûreté qu'ils étaient, derrière un volet ou une cheminée. Dans la rue, l'animosité de l'homme de peine ou du soldat n'allait pas au-delà du coup porté. Blessés, on se secourait mutuellement. Le peuple sauva plusieurs victimes. Deux officiers, M. de Goyon et M. Rivaud, après une défense héroïque, durent la vie à la générosité des vainqueurs. Un capitaine de la garde, Coman, reçoit un coup de barre de fer sur la tête. Étourdi et les yeux sanglants, il relève avec son épée les baïonnettes de ses soldats qui mettaient en joue l'ouvrier. La garde était remplie des grenadiers de Bonaparte. Plusieurs officiers perdirent la vie, entre autres le lieutenant Noirot, d'une bravoure extraordinaire qui avait reçu du prince Eugène la croix de la Légion d'honneur en 1813. Pour un fait d'armes accompli dans une des redoutes de Galdiera. Le colonel de Plainselve, blessé mortellement à la porte Saint-Martin, avait été aux guerres de l'Empire, en Hollande, en Espagne, à la Grande Armée et dans la garde impériale. À la bataille de Leipzig, il fit prisonnier de sa propre main le général autrichien Merfeld. Porté par ses soldats à l'hôpital du Gros Caillou, il ne voulut être pansé que le dernier des blessés de juillet. Le docteur Larrey, qu'il avait rencontré sur d'autres champs de bataille, lui amputa la cuisse. Il était trop tard pour le sauver. Heureux ces nobles adversaires, qui avaient vu tant de boulets passer sur leur tête, s'ils ne succombèrent pas sous la balle de quelques-uns de ces forçats libérés que la justice a retrouvés depuis la victoire dans les rangs des vainqueurs. Ces galériens n'ont pu polluer le triomphe national républicain. Ils n'ont été nuisibles qu'à la royauté de Louis-Philippe. Ainsi s'abîmèrent obscurément dans les rues de Paris les restes de ces soldats fameux, échappés aux canons de la Moscova, de Lutzen et de Leipzig. Nous massacrions, sous Charles X, ces braves que nous avions tant admirés sous Napoléon. il ne leur manquait qu'un homme. Cet homme avait disparu à Sainte-Hélène. Au tombé de la nuit, un sous-officier déguisé vint apporter l'ordre aux troupes de l'hôtel de ville de se replier sur les Tuileries. La retraite était rendue hasardeuse à cause des blessés que l'on ne voulait pas abandonner et de l'artillerie difficile à passer à travers les barricades. Elle s'opéra cependant sans accident. Lorsque les troupes revinrent des différents quartiers de Paris, elles croyaient le roi et le dauphin arrivés de leur côté comme elles. Cherchant en vain des yeux le drapeau blanc sur le pavillon de l'horloge, elles firent entendre le langage énergique des camps. Il n'est pas vrai, comme on le voit, que l'hôtel de ville ait été pris par la garde sur le peuple, et repris sur la garde par le peuple. Quand la garde y entra, elle n'éprouva aucune résistance, car il n'y avait personne, le préfet même était parti. Ces ventances affaiblissent et font mettre en doute les vrais périls. La garde fut mal engagée dans les rues tortueuses. La ligne, par son espèce de neutralité d'abord, et ensuite par sa défection, acheva le mal que des dispositions belles en théorie, mais peu exécutables en pratique, avaient commencé. Le 50e de ligne était arrivé pendant le combat à l'hôtel de ville. Harassé de fatigue, on se hâta de le retirer dans l'enceinte de l'hôtel, et il prêta à des camarades épuisés ses entières et inutiles cartouches. Le bataillon suisse, resté au marché des Innocents, fut dégagé par un autre bataillon suisse. Ils vinrent l'un et l'autre aboutir au quai de l'école et stationnèrent dans le Louvre. Au reste, les barricades sont des retranchements qui appartiennent au génie parisien. On les retrouve dans tous nos troubles, depuis Charles V jusqu'à nos jours. Guillemet. Le peuple, voyant ses forces disposées par les rues, dit l'Étoile, commença à s'émouvoir et se firent les barricades en la manière que tous savent. Plusieurs Suisses furent tués, qui furent enterrés en une fosse faite au parvis de Notre-Dame. Le duc de Guise, passant par les rues, c'était à qui crierait le plus haut « Vive Guise !» Et lui, baissant son grand chapeau, leur dit « Mes amis, c'est assez. Messieurs, c'est trop. Criez, vive le roi !» Fin des guillemets. Pourquoi nos dernières barricades, dont le résultat a été puissant, gagnent-elles si peu à être racontées, tandis que les barricades de 1588, qui ne produisirent presque rien, sont si intéressantes à lire? Cela tient à la différence des siècles et des personnages. Le XVIe siècle menait tout devant lui. Le XIXe a laissé tout derrière. Monsieur de Puyraveau n'est pas encore le Balafré. Chapitre 4. Journée civile du 28 juillet. Durant qu'on livrait ces combats, la révolution civile et politique suivait parallèlement la révolution militaire. Les soldats détenus à l'abbaye furent mis en liberté. Les prisonniers pour dette, à Sainte-Pélagie, s'échappèrent, et les condamnés pour faute politique furent élargis. Une révolution est un jubilé. Elle absout de tous les crimes, en en permettant de plus grands. Les ministres tinrent conseil à l'état-major. Ils résolurent de faire arrêter, comme chef du mouvement, messieurs Lafitte, Lafayette, Gérard, Marchais, Salverte et Audry de Puyraveau. Le maréchal en donna l'ordre. Mais quand plus tard ils furent députés vers lui, il ne crut pas de son honneur de mettre son ordre à exécution. Une réunion du parti monarchique, composée de pairs et de députés, avait eu lieu chez M. Guizot. Le duc de Breuil s'y trouva. Messieurs Thiers et Mignet, qui avaient reparu, et M. Carrel, quoiqu'ayant d'autres idées, s'y rendirent. Ce fut là que le parti de l'usurpation prononça le nom du duc d'Orléans pour la première fois. M. Thiers et M. Mignet allèrent chez le général Sébastiani lui parler du prince. le général répondit d'une manière évasive. Le duc d'Orléans, assura-t-il, ne l'avait jamais entretenu de pareils desseins et ne l'avait autorisé à rien. Vers midi, toujours dans la journée du 28, la réunion générale des députés eut lieu chez M. Audry de Puyraveau. M. de Lafayette, chef du parti républicain, avait rejoint Paris le 27. M. Laffitte, chef du parti orléaniste, n'arriva que dans la nuit du 27 au 28. Il se rendit au Palais-Royal, où il ne trouva personne. Il envoya à Neuilly, le roi en herbe n'y était pas. Chez M. de Puyraveau, on discuta le projet d'une protestation contre les ordonnances. Cette protestation, plus que modérée, laissait entière les grandes questions. M. Casimir Perrier fut d'avis de dépêcher vers le duc de Raguse. Tandis que les 5 députés choisis se préparaient à partir, M. Arago était chez le maréchal. Il s'était décidé, sur un billet de Mme de Boigne, à devancer les commissaires. Il représenta au maréchal la nécessité de mettre un terme au malheur de la capitale. M. de Raguse alla prendre langue chez M. de Polignac. Celui-ci, instruit de l'hésitation des troupes, déclara que si elles passaient au peuple, on tirerait sur elles comme sur les insurgés. Le général Tromelin, témoin de ces conversations, s'emporta contre le général d'Ambrujac. Alors arriva la députation. M. Laffitte porta la parole. « Nous venons, dit-il, vous demander d'arrêter l'effusion du sang. Si le combat se prolongeait, il entraînerait non seulement les plus cruelles calamités, mais une véritable révolution. » Le maréchal se renferma dans une question d'honneur militaire, prétendant que le peuple devait le premier cesser le combat. Il ajouta néanmoins ce post-scriptum à une lettre qu'il écrivit au roi. « Je pense qu'il est urgent que votre majesté profite sans retard des ouvertures qui lui sont faites. » L'aide de camp du duc de Raguse, le colonel Korienowski, introduit dans le cabinet du roi à Saint-Cloud, lui remit la lettre. Le roi dit « Je lirai cette lettre ». Le colonel se retira et attendit les ordres. Voyant qu'il n'arrivait pas, il pria M. le duc de Duras d'aller chez le roi les demander. Le duc répondit que, d'après l'étiquette, il lui était impossible d'entrer dans le cabinet. Enfin, rappelé par le roi, M. Konierowski fut chargé d'enjoindre au maréchal de tenir bon. Le général Vincent accourut de son côté à Saint-Cloud. Ayant forcé la porte qu'on lui refusait, il dit au roi que tout était perdu. « Mon cher, répondit Charles X, vous êtes un bon général, mais vous n'entendez rien à cela. » Thank you.